14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
Je me sentais réellement comme étant une sorte de soldat dans l'armée satanique. Et nous devions mettre à genoux la ville de New York pour installer le règne de la terreur. Ce fut une tragédie. Des vies innocentes furent perdues, ma vie ruinée, et la vie d'autres personnes ont été également ruinées.
Bonjour. Le fils de Sam, c'est comme cela que s'était baptisé David Berkowitz, l'homme qui fit trembler la ville de New York au milieu des années 70. La trajectoire d'un tueur en série psychopathe qui tuait des jeunes femmes aux cheveux longs et bruns. En un an, 8 agressions, 6 morts et 5 survivants qualifiés de miraculés par la police. Pendant des mois, David Berkowitz aura défié les autorités, les médias et le pays tout entier à travers une série de messages envoyés à la presse et au chef de la police de New York. Dans ses explications, il affirme être sous l'emprise des forces du mal qui lui dicte ses ordres. Dans cette heure du crime, nous allons voir quels personnages vont découvrir les enquêteurs après une traque inédite. À leur grande surprise, pas tout à fait un illuminé sanguinaire, mais une personnalité bien plus contrastée, au point qu'on se demande encore aujourd'hui si cet homme a agi seul. Mais au fait, pourquoi Berkowitz se ferait-il appeler le fils de Sam ? La réponse surprenante nous sera fournie par nos invités.
14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL.
Dans l'heure du crime aujourd'hui, la course meurtrière de David Berkowitz, alias le fils de Sam. Il va falloir un an pour démasquer celui qui a plongé New York dans la psychose. Parcours sanglant qui démarre dans une quasi-indifférence au milieu de l'été 1976. Ce 29 juillet 1976, aux alentours de 1h10 du matin, Jody Valenti, 19 ans, infirmière, et Donna Loria, 18 ans, étudiante en médecine, discutent dans une voiture garée sur un parking du Bronx. Les deux amis ont passé la soirée au Peachtrees, une discothèque. Jody a ramené Donna chez elle au 2860 Burr Avenue. Donna sort de la voiture. Elle aperçoit aussitôt la silhouette d'un homme qui s'approche d'un pas rapide. Celui-ci sort un revolver d'un sac en papier et fait feu. Donna Loria est tuée sur le coup par une balle de calibre 44. Jody Valenti, restée au volant, est touchée à la cuisse par une deuxième balle. Elle pourra décrire vaguement le tueur. Un homme brun et trapu, la trentaine, environ 1m73 pour 85-90 kilos. La police est persuadée qu'il s'agit d'un contrat de la mafia italienne. Le meurtrier se serait trompé de cible. Trois mois plus tard, 23 octobre 1976, quartier du Queens, un couple dans une voiture est visé par des tirs. La conductrice est blessée par des éclats de verre. Le passager, 20 ans, Carl Denaro, est touché au crâne. Il survivra miraculeusement. À cause de ses cheveux très longs et bruns, le tireur l'a pris pour une femme. À chaque fois, un calibre 44 a été utilisé. La police de New York ne fait pas le rapprochement entre les deux affaires. Les lieux des crimes sont beaucoup trop éloignés les uns des autres. 27 novembre 76, peu après minuit, Donna De Masi, 16 ans, et Johan Lomino, 18 ans, étudiante au lycée Martin Van Buren dans le Queens, discutent sous un porche. Elles sont abordées par un homme qui cherche son chemin et dégaine aussitôt une arme. Les deux lycéennes sont blessées, Johan restera tétraplégique. La police ne relie toujours pas toutes ces affaires, même si à chaque fois c'est un homme seul, armé d'un calibre 44, ciblant de jeunes femmes aux cheveux longs et bruns, qui frappe. Le rapprochement va se faire deux mois plus tard, 30 janvier 77. Aux toutes premières heures du matin, un couple qui vient de voir le film Rocky au cinéma embarque dans sa voiture pour aller en discothèque. Il essuie alors plusieurs coups de feu. L'homme est légèrement blessé. Sa fiancée, Christine Freund, une secrétaire de 26 ans, est tuée sur le coup. Cette fois, les enquêteurs établissent formellement un lien entre toutes ces affaires. Les munitions retrouvées, bien que dégradées, ont été tirées par une même arme, un revolver 44 Bulldog, fabriqué par la marque Charters Arms. Les motivations du meurtrier demeurent obscures. Les femmes sont visées en priorité. Les femmes ne se connaissent pas. Seule la couleur de leurs cheveux pourrait alors apparaître comme un trait d'union. La police de New York sait qu'un tueur se promène en ville. Le 8 mars 77, une étudiante de l'université Columbia est retrouvée morte près de chez elle, dans le Queens. Elle a essayé de se protéger de son agresseur avec ses livres de classe, déchiquetés par les tirs. Les journaux commencent à évoquer la présence d'un psychopathe qui arpente les quartiers du Queens et du Bronx, un tueur de femmes. Le maire de New York fait de cette chasse à l'homme une priorité. Au mois d'avril, pas moins de 300 agents sont affectés à ce dossier prioritaire. Les patrouilles de nuit, notamment à la sortie des nightclubs et des cinémas, sont renforcées. Mais rien n'arrête la marche du tueur. 17 avril 77, un couple d'amoureux, lui 20 ans, elle 18 ans, ne survit pas à la fusillade. La série noire n'est pas terminée. Le tueur de femmes rôde toujours en ville. Impossible de l'identifier en dépit des témoignages recoupés de ceux et celles qui ont survécu. Un homme qui aime apparemment faire parler de lui au point de se confier à la police et à un journal. Dans la voiture des deux dernières victimes en date, Valentina Suriani et Alexander Ezo, le couple d'amoureux qui n'a pas survécu au tir le 17 avril 77, les policiers ont trouvé une lettre anonyme rédigée en capitale. Elle est adressée au capitaine Joseph Borrelli de la police de New York et signée par ce sobriquet, le fils de Sam. Le tueur ironise sur les efforts infructueux des enquêteurs. Il affirme que son œuvre n'est pas achevée et qu'il va continuer à tuer. « Je suis profondément choqué qu'on me présente comme quelqu'un qui hait les femmes. C'est faux, mais je suis un monstre. Je suis le fils de Sam. Quand Sam a trop bu, il m'entraîne derrière la maison, il m'enferme dans le garage. Sam adore boire du sang. Va-t'en et tue, commande le père Sam. » La lettre est une suite de provocations lancées aux policiers avec ces mots « Je reviendrai, je reviendrai ». Lettre cachée sans succès aux journaux qui vont vite faire des gorges chaudes de cet assassin que les psychiatres de la police décrivent comme un schizophrène paranoïde en proie à une possession démoniaque. 30 mai 1977, un éditorialiste en vue du journal New York Daily News reçoit une lettre manuscrite. Au dos de l'enveloppe figurent ces formules « Sans » et famille, obscurité et mort, totale dépravation. Le courrier, signé par le fils de Sam, évoque la première victime, Donna Loria, qu'il ne faut pas oublier, écrit-il avec un cynisme absolu. C'était une très, très gentille fille, mais Sam est un garçon assoiffé qui ne m'empêchera pas de tuer jusqu'à ce qu'il soit rassasié de sang. J'aime mon travail. Plus loin, le fils de Sam demande aux journalistes de transmettre quelques noms aux policiers. Des personnages fantasmatiques qui guideraient ses gestes et animeraient ses pensées. Le duc de la mort, le méchant roi, les 22 disciples de l'enfer. Le 1er juin, le Daily News reçoit une seconde lettre aux connotations clairement satanistes. Le fils de Sam fait entendre qu'il répond au diable en personne. C'est lui qui lui demande d'accomplir sa sombre besogne. Pendant une semaine, le journal va publier bout après bout la lettre du tueur, près de 1 million d'exemplaires vendus. La psychose prend alors des proportions inouïes dans les rues de New York, le fils de Sam ne s'intéressant qu'aux jeunes femmes brunes. Les ventes de perruques blondes et rousses explosent. Le tueur a annoncé dans toutes ses lettres qu'il allait recommencer. Il tient parole. Le 26 juin, il tire sur un couple stationné sur un parking entouré d'arbres dans le Queens. Judy Placido, 17 ans, est touchée d'une balle tirée dans la tempe droite. Son petit ami, Salvatore Lupo, est blessé au bras. Tous deux vont toutefois s'en sortir. Les policiers affectés à la chasse du fils de Sam, l'opération Omega, sont épaulés par 100 fonctionnaires supplémentaires.
Il faut préciser qu'à l'heure actuelle, toute la police new-yorkaise ratisse tous les quartiers de New York, de Bronx à Brooklyn, en passant par l'île de Manhattan. Toute la police new-yorkaise et plus de 300 détectives qui sont à la recherche du fils de Sam.
Mais rien à faire. L'assassin court toujours et frappe toujours. Le 31 juillet, dans un parc de Brooklyn, Robert Violante et sa fille Stacy Moskowitz et sa fiancée Stacy Moskowitz, tous deux âgés de 20 ans, flirtent dans une automobile. Leur premier rendez-vous d'amoureux. Des coups de feu claquent. Robert Violante est atteint au visage. Il perdra son œil gauche. Stacy Moskowitz est touchée deux fois à la tête. Elle mourra 38 heures plus tard à l'hôpital. Cette fois, Le tueur a pris tous les risques. Il a agi sur un parking bien éclairé et fréquenté par d'autres couples. Des témoins ont clairement aperçu sa silhouette. Un individu qui s'est évanoui tranquillement sous les arbres après avoir commis son forfait. 4 jours après cette 8e attaque, une résidente dit avoir vu un homme détacher un PV collé sur son pare-brise. Cet homme tenait un objet noir dans la main. La fusillade à quelques mètres de là a éclaté peu après. La jeune secrétaire Stacy Moskowitz va être la dernière victime du fils de Sam. En quelques jours, les policiers new-yorkais vont parvenir à s'approcher de cet individu.
Les enquêteurs s'intéressent à toutes les voitures
verbalisées au soir du 31 juillet, près du parc où Stacy Moskowitz a été tuée à bout portant et son fiancé grièvement blessé. L'une d'elles, une Ford Galaxy jaune, appartient au dénommé David Berkowitz, 24 ans. C'est un modeste postier. Il habite le quartier populaire des Yonkers, au nord de Manhattan. La police locale le soupçonne de quelques méfaits, agressions et cambriolages. Il a acquis un an auparavant un revolver calibre 44 au Texas. Le 10 août, la police débarque chez Berkowitz au 35 Pine Street. Ils l'attendent discrètement près de sa voiture dans laquelle ils ont aperçu un revolver sur la banquette arrière, des munitions, ainsi qu'une lettre adressée à un responsable policier. À peine a-t-il rejoint le véhicule que Berkowitz est mis en joue par un inspecteur. L'homme ne montre aucune résistance. Il lève les bras. « Je suis Sam », dit-il au policier. David Berkowitz, abandonné dès son plus jeune âge par sa mère, est un enfant adopté. Enfance chaotique, voleur convulsif et pyromane. À 17 ans, il s'engage dans l'armée, en Corée, avant de quitter l'uniforme 3 ans plus tard. Il semble depuis toujours dans l'incapacité de s'adresser aux femmes. Il dit avoir agressé au couteau une première femme en 1975. Il reconnaît les agressions, indique avoir été sous une emprise démoniaque. Il raconte qu'il était sous l'influence de son voisin, Sam Carr, qui possède un labrador noir baptisé Harvey. C'est ce chien qui lui aurait transmis les ordres diaboliques, le poussant à tuer des femmes pour assouvir une soif de sang. Un homme vieux de 6000 ans, raconte-t-il, lui parlait à travers cet animal. Berkowitz confesse qu'il était dans la main du diable. Dans son appartement, les policiers vont découvrir des graffitis sataniques sur les murs, ainsi qu'un journal dans lequel il relate ses activités criminelles et maléfiques, parmi lesquelles tous les feux et incendies qu'il a allumés ces 3 dernières années. Berkowitz répond à toutes les questions. Il est fier de son œuvre. Les psychiatres vont effectivement déclarer qu'en dépit des apparences, David Berkowitz, alias le fils de Sam, n'est atteint d'aucun trouble grave. Il est apte à être jugé par un tribunal. Ce 8 mai 78, David Berkowitz fait face aux juges et aux jurés du tribunal criminel de New York. 3 expertises médicales l'ont déclaré apte à comparaître. Ses avocats l'ont incité à se déclarer non coupable en invoquant la folie, mais il a refusé. Les audiences se déroulent sans encombre. Le fils de Sam reconnaît un à un les assassinats qui lui sont imputés. Il indique avoir été en quelque sorte téléguidé par le démon. Il ne va craquer qu'une seule fois, peu avant le verdict. Il tente alors d'ouvrir une fenêtre du 7e étage, il hurle que Stacy Moskowitz, sa dernière victime, était une traînée. « Je la tuerai encore, je les tuerai toutes encore », hurle-t-il. Le 12 juin, Berkowitz est condamné à un total de 315 années de prison. La peine de mort est abolie dans l'État de New York. Il pourra demander une sortie anticipée dans 30 ans. Il est écroué à la prison d'Attica. 3 ans plus tard, Berkowitz certifie que l'histoire du chien qui lui transmettait des ondes démoniaques était une pure invention. Mais il maintient les accusations contre la famille qui habitait près de chez lui, les frères John et Michael Carr, et leur père Sam Carr, le fameux Sam, propriétaire du Labrador, une famille satanique qu'il aurait recruté. Sam Carr est présenté comme le plus haut gradé de cette armée du diable. Les frères Carr mourront tous deux de mort violente après l'arrestation du fils de Sam. Une fusillade pour l'un, un accident de voiture pour l'autre. Le chiffre 666, le chiffre du diable, sera retrouvé tatoué sur une main de l'un des frères. Aucun membre de la famille Carr n'a jamais été interrogé dans cette enquête. David Berkowitz est parti pour de très longues années de prison, un séjour qui va être l'occasion d'une longue réhabilitation, d'une rédemption, dira-t-il, au point de ne plus vouloir quitter sa cellule. David Berkowitz, 68 ans, est un détenu modèle du Sullivan Correctional Facility, la prison de haute sécurité de Wolfsburg. Il a déjà bénéficié à 16 reprises de la possibilité d'être libéré sur parole, mais a toujours refusé de saisir cette opportunité. En 2002, il s'adresse ainsi à l'administration pénitentiaire. « Je crois que mon devoir est de rester en prison jusqu'à la fin de mes jours. J'ai, avec l'aide de Dieu, fait la paix avec moi-même. » À Wolfsburg, David Berkowitz, qui a rejoint l'église évangélique, s'occupe de la chapelle, assiste les prisonniers souffrant de troubles psychiatriques, fait des lectures de la Bible et poursuit ses études. Un détenu modèle, dit son avocat. Lors d'une audience pour une libération qu'il allait refuser, le fils de Sam avait exprimé sa compassion pour les victimes. « Ce fut malheureusement une terrible tragédie. Je regrette de tout mon cœur ce que j'ai fait. C'était une époque où ma vie était hors contrôle. Je donnerais tout pour revenir en arrière et changer tout ça. Mais revenir en arrière et changer tout ça, c'est impossible. » Tous les deux ans, il sera proposé ainsi à David Berkowitz de retrouver la liberté. Il a toujours considéré qu'il serait indigne de sortir. Lors du procès, le frère d'une victime lui avait promis qu'il finirait dans les flammes de l'enfer.
L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.